Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'était passionnant. Jean-Luc Mélenchon ironise après la première journée d'audience. Son procès pour acte d'intimidation et de rébellion a commencé hier. Vous l'entendrez. Résumé de cette journée aussi avec Antoine Marette.
La mort hier de l'ancien président Ben Ali n'émeut pas tous les Tunisiens. Il était en exil depuis 2011 et le début du printemps arabe, il avait 83 ans.
Des manifestations sont prévues dans le monde entier aujourd'hui pour le climat. La jeunesse française devrait fortement se mobiliser. Plus de 6 mois après la naissance du mouvement, elle s'inquiète du dernier scénario qui annonce plus 7 degrés en 2100. La question du jour, Guillaume.
Eh bien, un nouveau plan de lutte contre le trafic de drogue, Margot. Pourquoi changer de stratégie? On posera la question au sociologue Dominique Dupré.
La première journée d'audience s'est terminée à 23h hier. Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches comparaissent devant le tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis pour des actes d'intimidation et de rébellion sur des magistrats et des forces de l'ordre. C'était pendant une perquisition au siège de la France Insoumise il y a près d'un an. En sortant du tribunal hier soir, le député des Bouches-du-Rhône l'a répété. Pour lui, ce procès est politique.
C'était passionnant. Qui a ouvert la porte, qui a fermé la porte, qui a levé le doigt, qui a parlé fort, moins fort, trop fort. Tout sort abîmé d'une pantalonnade pareille.
C'est une journée qui aurait été impossible sans les images de quotidien. L'unique matérialité et sujet de discussion, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les images de quotidien. Autrement dit, on voit là une boucle extrêmement courte entre une émission de divertissement et une opération politique. C'est incroyable. C'est très intéressant sur le plan sociologique.
Des propos recueillis par Antoine Marette qui a suivi pour France Culture cette première journée d'audience, son compte-rendu.
Jean-Luc Mélenchon est poursuivi pour intimidation et rébellion lors de la fameuse perquisition, mais le leader de la France Insoumise tente à chaque instant d'orienter le débat vers les raisons de cette perquisition. Et pour lui, les raisons sont politiques. C'est le pouvoir qui tente d'étouffer sa voix d'opposant. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ne pouvait pas ignorer que cette opération aurait lieu. Une opération démesurée avec des policiers armés et équipés de gilets pare-balles, digne d'un démantèlement de trafiquants, pas digne de parlementaires, selon Jean-Luc Mélenchon. Il dénonce une chaîne de commandement et de connivence. Il rappelle à l'envi que c'est une ancienne eurodéputée d'extrême droite, Sophie Montel, qui a lancé l'affaire des assistants parlementaires. L'émission Quotidien qui a diffusé les images de la perquisition se voit affublée du titre de procureur permanent. Et quand l'avocat de parti civil Éric Dupond-Moretti ironise sur le complot dont Jean-Luc Mélenchon se dit victime et lui demande si le juge qui compose le tribunal et les magistrats du siège font partie de ce complot, le leader de la France Insoumise répond « Les magistrats du siège, j'espère que ce sont eux qui vont arrêter la machine ».
Antoine Marette. Pendant ce temps, Xavier Bertrand dit penser à la présidentielle 2022. L'ancien ministre du Travail et de la Santé ne cache pas ses ambitions, mais il assure vouloir d'abord gagner les élections régionales. Elles auront lieu un an avant. Le président des Hauts-de-France était l'invité hier de l'émission « Vous avez la parole » sur France 2. Si les laboratoires pharmaceutiques ne font pas d'efforts pour éviter les pénuries de médicaments, ils seront sanctionnés. Déclaration hier du chef du gouvernement, Édouard Philippe, et de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, après une réunion à Matignon avec des industriels du secteur. Les cas de pénurie ont été multipliés par 20 ces 10 dernières années, les Aguyennes.
Des sanctions financières jusqu'à 1 million d'euros, soit 30% du chiffre d'affaires journalier, et l'obligation de constituer 2 à 4 mois de stock pour les médicaments prioritaires. Voilà une partie des annonces faites hier soir par le Premier ministre. Édouard Philippe veut que les industriels soient exemplaires, dit-il, et qu'ils soient punis lorsqu'ils ne respectent pas les règles.
Lorsque l'information de l'Agence nationale n'est pas suffisante, lorsqu'elle est trop tardive, ou lorsque la constitution de stock n'est pas à la hauteur des exigences et de l'intérêt que nous décelons.
De leur côté, les principaux concernés restent pour l'instant prudents, tout en rappelant qu'ils travaillent déjà sur la question. Frédéric Collet est le président du LEM, il représente les industriels des médicaments.
Nous avons publié au mois de février déjà une grande liste de mesures pour s'occuper de ces questions de rupture. Concernant les les sanctions. Nous avons souligné auprès du Premier ministre qu'il fallait prendre garde que ces sanctions n'aient pas d'effet contre-productif.
Les modalités de ces nouvelles sanctions seront précisées dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2020.
Et la ministre de la Santé a réagi hier après la découverte d'un essai clinique sauvage à l'abbaye de Sainte-Croix près de Poitiers. Des molécules aux effets inconnus étaient testées sur au moins 350 malades de Parkinson ou Alzheimer en toute illégalité. Agnès Buzyn s'est dite effondrée, horrifiée. Il y aura, elle l'assure, des sanctions et des poursuites. L'essai était mené par le fonds Josepha, dont le numéro 2 est le docteur Henri Joyeux, contesté par la communauté médicale à cause de ses positions anti-vaccins. Après Aigle Azur, c'est au tour d'une deuxième compagnie aérienne française, XL Airways, de demander son placement en redressement judiciaire. La direction a négocié pendant plus d'un an avec des repreneurs potentiels, mais sans aboutir, selon un communiqué publié hier. XL Airways emploie 570 personnes. Elle transporte chaque année près de 700 000 passagers en long courrier. On y reviendra dans le journal de 8h sur France Culture. À noter qu'Air France n'a finalement pas déposé de nouvelle offre pour Aigle Azur. Il resterait donc 4 candidats à la reprise.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Il était en exil depuis 2011. L'ancien président tunisien est mort hier à 83 ans.
Ben Ali avait été contraint de quitter le pouvoir, chassé par la révolution de Jasmin, point de départ du printemps arabe après 23 ans d'une présidence répressive. Sa mort intervient alors que les Tunisiens choisissent pour la deuxième fois leur président au suffrage universel. Sur place, la correspondance de Maureen Mercier.
Ici, la mort de Ben Ali, ça n'est pas un événement.
Il est mort. Et alors, Ben Ali, c'est qui ? C'est un terroriste. Il nous a fait vivre dans une terreur.
Pour la plupart des Tunisiens, Ben Ali était déjà de l'histoire ancienne, parce que silencieux depuis près d'une décennie, depuis son exil en Arabie Saoudite. Comme tant d'autres, cette jeune Tunisienne aussi entre indifférence et écœurement.
Je l'ai lu sur les news, Ben Ali, il est mort. Pour moi, il est mort depuis 8 ans. On attendait qu'il demande, pardon. Et il l'a pas fait.
Ici, on entend souvent cette petite musique, le fameux « c'était mieux avant ». Mais ceux qui disent dans un premier temps regretter Ben Ali expliquent très vite ensuite qu'ils regrettent en fait la stabilité économique d'avant la révolution de 2011, non pas l'autoritarisme. À quelques exceptions près, comme cet homme, 81 ans, il continue de travailler malgré son âge avancé. Son nom, Trabelsi, mais attention, aucun lien de parenté avec la femme de Ben Ali, ce qui ne l'empêche pas d'être très triste.
Son excellence, le président Ben Ali, nous a quittés. Il nous a protégés pour 23 ans des islamistes et des terroristes. Maintenant, il y a les braquages, il y a tout. On est libre de quoi ? De parler, mais pas autre chose.
Le corps de Ben Ali sera enterré aujourd'hui à La Mecque, selon une déclaration de son avocat. Si le corps de Ben Ali devait être rapatrié, sa femme, elle, risque la prison si elle revient en Tunisie. Elle a été condamnée à plusieurs dizaines d'années, notamment pour corruption et détournement de fonds.
Maureen Mercier, et on reparlera de la mort de Ben Ali à 7h35 dans la revue de presse internationale de Camille Magnard. Les États-Unis privilégient une solution pacifique avec l'Iran, accusé d'être à l'origine de l'attaque contre des installations pétrolières saoudiennes le week-end dernier. C'est ce qu'a affirmé hier le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, en tournée dans le Golfe. « Nous sommes ici pour bâtir une coalition destinée à parvenir à la paix », a expliqué le secrétaire d'État avant de rentrer à Washington. C'était prévisible. La Russie et la Chine ont mis leur veto hier à une résolution de l'Allemagne, de la Belgique et du Koweït. Ces derniers réclamaient un cessez-le-feu dans la province d'Idlib, en Syrie, où les combats font rage. Une résolution approuvée par 12 pays du Conseil de sécurité de l'ONU. De Paris à New York, de Strasbourg à Sydney, 4600 événements sont prévus dans le monde entier à l'occasion de la troisième grève mondiale pour le climat aujourd'hui. Des actions menées juste avant le sommet qui se tiendra lundi au siège de l'ONU. En France, 150 000 jeunes avaient défilé en mars dernier. On s'attend, comme ailleurs, à une mobilisation record dans l'Hexagone. La jeunesse rêve d'un sursaut, Véronique Roberotte.
Les slogans seront les mêmes qu'il y a 6 mois. On préfère sécher plutôt que brûler. 7 degrés de plus d'ici la fin du siècle, dans le pire des scénarios, ont alerté cette semaine des chercheurs français. Les mauvaises nouvelles sur le front du climat s'accumulent et pourtant rien ne semble bouger. Malgré l'urgence, constatent les jeunes mobilisés pour le climat. Pire, l'écart entre les discours du président français Emmanuel Macron et les actes se creuse, estime Marie du réseau Youth for Climate.
Ça fait plus de 6 mois que le mouvement est né, ça fait plus de 6 mois qu'on marche, ça fait plus de 6 mois qu'on fait des actions de désobéissance civile. Et le gouvernement fait toujours la sourde oreille, les grosses entreprises continuent de polluer. On attend qu'il n'y ait plus d'investissement dans les énergies fossiles, enfin, qu'ils en prennent conscience et qu'ils disent « oui, j'en suis conscient, je vous soutiens, c'est très bien ». Maintenant, on attend les actes derrière. Moi, j'ai 17 ans, je ne me vois pas vivre dans un monde tel que le prédit le GIEC.
En mars dernier, pour la première grève mondiale pour le climat, 2 millions de jeunes essentiellement avaient défilé dans le monde. Cette fois, elles seront rejointes par le monde du travail. 76 syndicats ont appelé à manifester à travers la planète.
L'inaction de l'État français également dénoncée par Sébastien Chadeau-Pétronin. Lui reproche au gouvernement de ne pas trouver de solution pour libérer sa mère. Sophie Pétronin, 73 ans, est retenue en otage au Mali depuis décembre 2016. Aujourd'hui, cela fait 1000 jours. Sébastien Chadeau-Pétronin a discuté la semaine dernière avec les autorités françaises. Il leur demande de se positionner sur leur stratégie avant la fin du mois.
Les gens qui la détiennent aimeraient bien trouver une issue à cette affaire. Ils sont aussi très embêtés de devoir la garder. Les raisons sont multiples. C'est une femme, elle est âgée. C'était une humanitaire qui était beaucoup aimée au Mali. Et elle est malade, elle nécessite des soins, donc elle devient une charge financière. Donc il y a une vraie volonté du côté des gens qui la tiennent de s'en séparer. Ma conviction, elle est que les autorités françaises ne font absolument rien pour trouver une solution conciliatrice ou une solution de négociation, une solution de diplomatie. Voilà, je m'attends de nouveau à me retrouver seul face au destin de ma mère. Et ce que j'ai exprimé, je l'ai exprimé par écrit il y a quelques jours, c'est concrètement, quels sont vos moyens pour parvenir à sa libération? Parce que vous dites que vous travaillez inlassablement, mais moi aussi je pense inlassablement à ma mère.
Sébastien Chadeau-Pétronin. Il était facilement reconnaissable avec son nez cassé par son grand ami Jean-Paul Belmondo sur un ring de boxe. L'acteur Charles Gérard est mort hier à 96 ans. Il a beaucoup joué les seconds rôles des films de Claude Lelouch comme L'Aventure, c'est l'aventure, Les uns et les autres. La météo, la journée s'annonce belle presque partout en France. Le ciel sera gris dans le sud, de la Charente à la Savoie. Les températures maximales sont en hausse. 21 degrés prévus cet après-midi à Lille et Strasbourg. 24 à Paris, 27 à Lyon et 31 degrés à Bordeaux-Guillaume.